Bonjour, je vous remercie d'être nombreux aujourd'hui pour la reprise de nos séances pour l'année 2015. Il est trop tard pour que je vous souhaite une bonne année, mais c'est pas grave, je vous la souhaite quand même, quels que soient les premiers événements qui nous ont quand même très affectés. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Bernard Sève, qui vient nous parler de l'instrument de musique dans la dimension technique et esthétique. Alors, Bernard Sève est professeur de philosophie à l'université Lille 3 et il est, de façon générale, je vais dire, spécialiste de philosophie de l'art et d'esthétique. Et effectivement, l'ouvrage pour lequel il vient nous donner une présentation, c'est l'ouvrage sur l'instrument de musique, intitulé « Une étude philosophique ». Mais auparavant, en 2002, et il y a eu une réédition en 2013, il avait publié cet ouvrage qui s'appelle « L'altération musicale », où il faisait de l'altération une notion tout à fait centrale pour rendre compte de l'expérience de l'écoute musicale et aussi de l'ontologie de l'œuvre musicale. Voilà, l'altération musicale, ou ce que la musique apprend aux philosophes. Mais Bernard Sève est aussi, par ailleurs, un spécialiste de Montaigne. Donc, il a publié en 2007 cet ouvrage qui s'appelle « Montaigne, des règles pour l'esprit », qui est un ouvrage important sur Montaigne, et il est d'ailleurs vice-président de la Société internationale des Amis de Montaigne. Alors bon, il y a encore d'autres livres dans sa bibliographie, un livre sur les listes par exemple, mais je ne vais pas monopoliser la parole et je vais donner à Bernard Sève la parole pour qu'il nous parle de l'instrument de musique.
Merci beaucoup. Je remercie Kim Sang pour sa présentation. Je remercie bien sûr la Société philosophique de Bordeaux qui m'invite et bien sûr, la librairie Mola, où j'ai déjà eu le plaisir de parler, dans cette même salle. Et c'est toujours un bonheur de venir et à Bordeaux et chez Mola. Nous sommes convenus que j'allais parler environ 45 minutes. Et je vais donc vous présenter quelques idées. J'ai choisi un angle d'attaque, puisque l'instrument de musique est un domaine qui ouvre sur un nombre considérable de questions. Et j'ai choisi le rapport entre l'instrument et l'œuvre. Comment l'instrument de musique fait œuvre, œuvre musicale, mais comment il est en lui-même une œuvre. Une chose qui m'a étonné depuis pas mal d'années que je travaille en philosophie de la musique, c'est le peu d'intérêt que les philosophes portaient à l'instrument de musique. Je ne dis pas qu'aucun philosophe n'en parle, mais ils sont peu nombreux. Et en général, quand on parle de musique, on va droit vers la question de la signification, la question de l'émotion, la question de la voix, la question du rapport de la musique avec les autres arts. Toutes ces questions sont extrêmement importantes, bien entendu. Mais l'instrument est comme oublié, alors que c'est un des faits les plus significatifs de la musique. Je ne veux pas être trop prof, quoi que ce soit un très noble métier, mais je remarquerai que le premier, je crois, à avoir repéré ça, c'est Hegel, dans son esthétique, qui fait cette remarque toute simple, enfin toute simple, sauf qu'il est le premier à la faire et qu'elle va très loin, et qu'il ne développe pas malheureusement, mais il dit « la musique est le seul art qui fabrique son matériau ». Tous les autres arts empruntent à la nature directement des matériaux, du marbre, du minerai. Bon, alors ces matériaux sont des pigments, ces matériaux sont transformés pour ensuite faire des œuvres. Mais la musique ne travaille pas avec les sons du monde, sauf un peu la musique concrète, mais qui est 0,001% de l'histoire de la musique mondiale. La musique ne travaille pas avec les sons naturels. La musique travaille avec des sons qu'elle a fabriqués elle-même. Et donc la musique commence par fabriquer des objets techniques qui fabriquent le matériau qu'elle va mettre en forme dans des œuvres musicales. C'est un cas absolument unique. C'est ce que j'appelle dans mon jargon la condition organologique de la musique. C'est-à-dire que la musique n'existe que sous condition de fabriquer des instruments et de les utiliser. Bien sûr, il y a la voix humaine. Qui, elle, est naturelle, même si la voix musicale est une voix qui n'est plus naturelle, mais qui est travaillée, et qui, selon moi, est travaillée en relation avec des instruments qui existent déjà. Mais ça, c'est un point dont on pourra discuter, que je ne veux pas développer maintenant. Mais pour le reste, la musique fabrique des objets qui fabriquent son matériau. Voilà, il y a un étage de plus par rapport aux autres arts. Or, Le deuxième point très significatif, c'est le nombre des instruments de musique. Je n'arrête pas de m'étonner du nombre extraordinaire d'instruments que la que l'humanité, depuis 40 000 ans, puisqu'on a trouvé en Allemagne, du côté de Baumbeuren, une flûte en os de vautour qui doit avoir 40 000 ans. Bon, donc disons 40 000. L'humanité a inventé au bas mot 12 000 types d'instruments. 12 000, c'est un nombre que je n'invente pas, c'est simplement le nombre d'entrées qu'il y a dans le grand dictionnaire, le Grove, grand dictionnaire britannique, qui recense les instruments de musique, dont une nouvelle édition vient de paraître d'ailleurs, et qui recense 2000 types d'instruments européens et 10 000 types d'instruments extra-européens. Ce qui donne 12 000, mais c'est un chiffre bas, parce que le Grove considère la clarinette comme un seul instrument. Or, ils ont raison d'ailleurs, hein, bien sûr, mais enfin, entre une clarinette de 1750 qui n'a pas de clé et qui est en la, et une clarinette de 1850 qui est en si bémol et qui a cette clé, et puis il y a des tas d'autres cas, y a quand même aussi beaucoup de différences. Entre un clavecin à un seul jeu et un seul clavier, et un clavecin à pédalier, trois claviers et cinq ou six jeux, est-ce que c'est le même instrument, est-ce que c'est pas le même instrument? C'est en partie conventionnel, mais enfin, voilà. Alors c'est fascinant ce nombre d'instruments. C'est tout à fait fascinant et je trouve qu'ici le quantitatif a une signification philosophique. Si l'humanité a inventé autant d'instruments, c'est parce que l'instrument est sous-déterminé du point de vue fonctionnel. C'est une thèse d'ailleurs que je n'ai pas bien développée dans le livre parce que une fois qu'un livre est paru, on continue à réfléchir, à discuter, à penser et ça m'est venu après coup. Voilà. Si je fais un jour une réédition, j'ajouterai cette idée qui me paraît aujourd'hui très importante. L'instrument est sous-déterminé, je m'explique. Si on fabrique un marteau ou une voiture, on a une fonction qui est déterminée, qui est précise et qui dicte le choix des matériaux, le choix de la forme, le choix de l'agencement de l'objet, et l'objet est pensé pour sa pertinence par rapport au type d'effet qu'on attend de lui. Ça paraît assez logique. L'instrument de musique, c'est pas ça. On attend de l'instrument de musique qu'il fasse quoi ? On attend de l'instrument de musique qu'il fasse le type de son qu'on a envie qu'il fasse. Il y a quelque chose dans lequel on tourne en rond. Par exemple, il y a des instruments qui ont des fonctions, comme les instruments pour la chasse ou pour la guerre. Bon, les instruments guerriers ne sont pas forcément les plus sympathiques, mais enfin, ils existent dans toute l'histoire de l'humanité. Pour faire son effet de rassemblement des troupes, de signal donné non équivoque, de choses comme ça, on peut, bien sûr, un clavecin ne ferait pas l'affaire, ça c'est sûr, ni une viole de gambe. On peut avoir un trombone, un klaxon, un cornet, une trompette, un cor, un apeau, enfin toutes sortes d'objets sonores peuvent remplir cette fonction. Et de chacun de ces objets sonores, des tas de variantes différentes sont possibles. Autrement dit, même dans le cas d'instruments qui ont une fonction déterminée, par exemple la chasse ou par exemple la guerre, cette fonction est suffisamment sous-déterminée, peu déterminée, pour laisser la marge à une quantité très considérable d'inventions organologiques. L'organologie, c'est la science des instruments de musique. Cette sous-détermination fonctionnelle de l'instrument explique, à mon avis, le très grand nombre d'instruments et l'espèce de fantaisie extraordinaire de l'imaginaire sonore de l'humanité. On continue d'ailleurs à inventer des instruments. Je distingue par clarté cinq types de lutherie. On appelle luthier en général l'artisan qui fabrique des instruments à cordes frottées ou pincées, et puis facteur, l'instrument, l'artisan qui fabrique des orgues, des pianos ou des instruments à vent. Bon, je dirais luthier pour tout le monde, c'est plus simple. En gros, vous avez la lutherie dite populaire, qui est la première lutherie, la lutherie qui invente vraiment à proprement parler. Vous avez la lutherie savante et artisanale, qui invente aussi, mais qui se construit sur la base de la lutherie populaire et qui rationalise les générations passant des techniques empiriques qui ont été trouvées et qui sont peu à peu affinées. Vous avez ensuite la technique industrielle qui apparaît, la lutherie industrielle qui apparaît à peu près au XVIIIe siècle, comme dans d'autres domaines, et qui va exploiter de façon rationalisée et mécanisée les découvertes sédimentées au cours du temps de la lutherie savante. Vous avez ensuite la lutherie technoscientifique, scientifique, c'est-à-dire celle qui présuppose des savoirs scientifiques, les trois premières lutrines ne présupposent rien du tout. Je reviendrai sur ce point. Et puis, vous avez quelque chose qui est très étudié aujourd'hui, enfin depuis quelques décennies, la lutherie sauvage. La lutherie sauvage, c'est apprendre à faire une trompette avec une bouteille en plastique. On peut faire une trompette assez convenable. Il suffit d'une embouchure et puis d'un peu de talent. Voilà. Et on peut faire un violon avec une caisse en bois. Voilà. Hein. La lutherie de guerre, sur laquelle Claude Rabouillot a écrit un livre merveilleux, je parle de la guerre de 14-18, la lutherie de guerre, aussi bien dans les tranchées allemandes que dans les tranchées françaises, relevait à la fois de cette lutherie sauvage et de la lutherie artisanale, quand des musiciens au front fabriquaient un violoncelle, un violon, il y a des instruments très célèbres qui sont conservés dans les réserves des musées. C'est à la fois fort, émouvant et très surprenant, parce que ces instruments de fortune ou d'infortune, plutôt, sont parfois acoustiquement et musicalement extraordinairement beaux. Hein. D'ailleurs, on relativise beaucoup aujourd'hui l'importance du matériau utilisé pour le son. Mais ça, c'est une piste dans laquelle je ne veux pas rentrer. Donc, voyez un peu le premier thème que je souhaitais présenter, cette inventivité qui prend plusieurs formes et qui est une énigme pour l'acousticien. Je travaille un peu avec des acousticiens de différents laboratoires. Les acousticiens, devant un instrument acoustique, l'instrument acoustique, c'est celui qui fonctionne quand l'électricité est coupée, c'est très simple. Bon. Voilà. Et c'est l'immense majorité, bien sûr, hein, des 12 000 types d'instruments que j'évoquais. Ces instruments acoustiques ont été inventés empiriquement. Sans théorie scientifique. Et pour un acousticien qui consacre son temps, son travail, sa recherche à l'explication des phénomènes sonores qui se passent dans un instrument de musique, l'instrument de musique est un objet aussi étranger, je veux dire aussi extérieur, qu'un phénomène naturel. L'acousticien va prendre un instrument inventé pourtant par l'humanité comme un phénomène naturel et il cherchera à l'expliquer comme il cherche à expliquer une réaction chimique ou un phénomène géologique. Je pense à Jean Kergomar, que je peux nommer, qui est un des plus savants acousticiens français, qui travaille au laboratoire acoustique musique de Marseille, qui est un laboratoire du CNRS et qui a publié il y a quelques années le livre qui fait actuellement autorité en matière d'acoustique d'instruments de musique, qui est un très gros livre de 800 pages et qui est d'un niveau scientifique qui évidemment n'est très supérieur à mes connaissances scientifiques. Bon. Et il m'explique que une flûte, par exemple, traversière, l'acoustique aujourd'hui l'explique à 85%. C'est-à-dire qu'on peut expliquer à 85% pourquoi le son qui sort de la flûte est causé, déterminé par l'ensemble très nombreux des paramètres de la flûte, le matériau, l'épaisseur, l'embouchure, la nature des trous, la façon dont ils sont bouchés ou pas bouchés, etc. Bon. En revanche, un violon, c'est 50%. Voilà. Le violon, que ce soit un Stradivarius ou un violon d'entrée de gamme, on sait à 50% pourquoi il donne ce genre de son et pas plus. Bon, c'est assez fascinant, c'est-à-dire qu'il y a des instruments qui sont beaucoup plus faciles, enfin entre guillemets, parce que tout ça c'est des décennies de travail, mais sont moins résistants, ou plutôt je vais dire les choses en sens inverse, il y a des instruments qui sont beaucoup plus résistants que d'autres à l'explication scientifique. Voilà ce que je veux dire. L'humanité qui fabrique les instruments ne sait pas ce qu'elle fait. Fabrique des objets d'une précision, d'une densité technique, émotionnelle et acoustique et musicale extraordinaire. Mais la théorie est un défi lancé aux physiciens et à l'acousticien. Bon, c'est quand même assez étonnant. Voilà. Alors, tout ce premier moment visait au fond l'instrument en tant qu'il est un produit technique. Donc fruit de l'imagination, du désir sonore et de l'évolution des techniques et des siècles. Mais l'instrument obéit à plusieurs types de logique. André Scheffner, qui a écrit le premier traité d'ethnomusicologie et d'organologie, c'était un disciple de Marcel Mauss, et ce traité est paru en 1936, il est sans cesse réédité, et il s'appelle « Origine des instruments de musique, introduction à la musique instrumentale ». Ce livre, qui est beaucoup consacré aux instrumentariums des sociétés africaines, puisque c'est dans ces sociétés qu'André Scheffner a personnellement travaillé, mais il couvre couvre la totalité du monde, également le monde asiatique et un peu moins le monde américain ou sud-américain. Et il explique bien que les instruments de musique ont souvent des visées dans la plupart des civilisations hétéroclites. Bien sûr, il s'agit de faire de la musique, mais il s'agit aussi d'apaiser les dieux, de guérir les maladies, de restaurer l'ordre de la cité, et que l'instrument est investi d'un type de pouvoir magique, alors qui suppose évidemment la croyance, puisque ce pouvoir dépend de la croyance qu'on a dans ce pouvoir, mais les logiques présidant à la fabrication des instruments de musique sont d'un côté artistiques, mais de l'autre côté non artistiques, et parfois même, je force un peu le trait, mais presque anti-artistiques. En tout cas, Scheffner soutient l'idée qu'un certain nombre d'instruments des sociétés premières, comme on dit maintenant, sont délibérément difficiles à jouer et donnent délibérément des sons un peu étranges, voire relativement désagréables. Il ne faut pas croire que dans l'instrument, l'humanité cherche toujours la beauté sonore, la facilité gestuelle et l'harmonie, pour employer un terme un peu vague. Il arrive au contraire que l'on cherche la difficulté, le geste impraticable, le son étrange et ce genre de choses. Voilà, donc l'œuvre de l'instrument, ou plutôt l'instrument comme œuvre, est pris dans des logiques techniques, artistiques, mais également religieuses, politiques, thérapeutiques, etc. etc. Alors c'est en un sens moins vrai dans les sociétés qu'on appelle couramment développées, mais il reste beaucoup de un peu de magie autour des instruments, en partie parce que ce sont des objets coûteux, enfin pour beaucoup d'entre eux, en partie parce que ce sont des objets avec un fort investissement affectif de la part des musiciens qui s'en servent, probablement aussi pour d'autres raisons. Il y a quelque chose d'irrationnel, par exemple, dans l'attachement qu'on a au Stradivarius. Bon, ça, c'est une chose très étudiée par les sociologues, les luthiers. Bon, il y a quelque chose d'irrationnel. Alors, il y a des querelles considérables pour savoir si des essais à l'aveugle entre un Stradivarius et un violon Yamaha fait il y a 2 ans sont vraiment probantes. Il y a des questions, des querelles de méthode tout à fait passionnantes. Vous allez sur Internet, vous tapez méthode Stradivarius et vous aurez un déluge de textes, en anglais en général, fort intéressant sur les expériences, les querelles d'interprétation, ensuite on monte d'un niveau la méthodologie de l'interprétation, la méthodologie de l'expérience, enfin bon, c'est absolument fascinant. Mais il est vrai qu'il y a quand même au fond quelque chose qui est un petit peu mythique. Bon, voilà. J'ai un ami luthier qui travaille sur le moment où le Stradivarius est devenu en Occident, vers 1820 à peu près, un instrument considéré comme exceptionnel par rapport aux autres. Bon, et il y a eu une construction sociale. Pierre Bayot, le grand virtuose français du début du XIXe siècle, qui a écrit un art du violon très intéressant en 1834, et une des pièces, il avait lui-même un Stradivarius, et il est une des pièces de la constitution du mythe Stradivarius. Je ne veux pas du tout, en disant ça, diminuer le mérite de ces violons, hein, dont aucun n'est d'ailleurs dans son état originel. Ils ont tous été transformés 2, 3, 4, 5, 6 fois depuis. Hein. Voilà. Je voulais simplement dire qu'il y avait des éléments irrationnels attachés, et c'est inévitable, à ce type d'objet. Je jette un œil sur ma montre pour ne pas être trop long. L'instrument de musique sert à faire de la musique. Mais la musique, je crois, n'est pas toujours un art. Je ne vais pas définir la musique, ou plutôt je vais droit à la définition qu'après réflexion, je juge depuis quelques années être la plus pertinente et la plus opératoire. C'est celle d'André Boukhorechliev, qui était un musicien d'origine bulgare, mais français, et un écrivain de musique, qui est mort il y a une dizaine d'années, et qui définissait la musique comme un système de différence qui structure le temps sous la catégorie du sonore. Je trouve cette définition merveilleuse. Un système de différence qui structure le temps sous la catégorie du sonore. On peut structurer le temps sous toutes sortes de catégories. Si on structure le temps sous la catégorie du geste ou du mouvement, on appellera ça la danse. Si on structure le temps sous la catégorie des choses à faire, on appellera ça un emploi du temps. Si on structure le temps sous la catégorie du sonore, c'est la musique. L'avantage de cette définition, c'est qu'elle couvre À mon avis, tous les types de musique, occidentale et non occidentale, savante et populaire, ancienne et récente, utilitaire et non utilitaire, vocale, instrumentale et mixte, je ne vois pas un type de musique qui ne puisse pas être pris en compte par cette définition. Qui a donc le mérite de montrer que, enfin, si on l'applique à l'instrument, si on pense l'instrument à la lumière de cette définition, que l'instrument n'a pas forcément pour fonction de faire du beau. Hein. Oui, bien sûr, très souvent, dans la musique ou dans ce qu'on appelle l'art musical, il s'agira de produire des sons que l'on considère comme beaux et harmonieusement liés dans la société considérée. Mais la musique cherche, d'une manière plus générale, à produire des effets. Et ces effets, nous le savons, peuvent être des effets d'endormissement, des effets de fanatisation, des effets d'hypnose. Bon, pensez par exemple à Orange Mécanique de Stanley Kubrick, par exemple. Bon, pour la musique peut servir à torturer. Bon, il faut aussi prendre ça en compte quand on envisage les pouvoirs assez équivoques de la musique. Hein. La musique n'est pas seulement, c'est pas seulement Mozart et Bach, bien sûr. Les instruments sont aussi à penser dans cette très vaste palette des effets de toutes sortes que la musique peut produire. Il y a, disais-je, des visées de différentes natures. Ces visées peuvent être, peuvent aller jusqu'à des visées de type cosmologique. Je m'explique. Et ça n'est pas seulement dans des sociétés anciennes ou exotiques. Il y a un très bel article que je cite dans le livre qui raconte la construction d'un luth en pays Dogon, en Afrique. Donc l'article date de 1950, il est de Dominique Zahan. Et il explique comment le luthier est à la fois un sorcier, un musicien, un prêtre. Et le luth qu'il fabrique, d'après un rituel extrêmement complexe, est là pour restaurer l'ordre de la société et l'ordre du monde quand la société va mal ou quand le monde va mal. Bon, il y a l'idée d'une efficace politique et cosmique du monde. Mais on pourrait se dire c'est très intéressant, mais c'est très ancien ou archaïque ou exotique, ou ça ne nous concerne pas. Ça concerne, je crois, beaucoup d'instruments. Si j'évoque les instruments des ténèbres, c'est un concept usuel. Lévi-Strauss a écrit une centaine de pages tout à fait remarquables dans le tome 2 des mythologiques sur les instruments des ténèbres. Les instruments des ténèbres, ils étaient en fonction encore en France dans les années 1920-1940. Et je sais qu'en Lorraine, par exemple, j'ai eu des témoignages directs, c'était encore en fonction autour de la Seconde Guerre mondiale. C'est pas si vieux. Qu'est-ce que c'est que les instruments des ténèbres? Ce sont les instruments dont on se sert dans la culture catholique pendant la semaine sainte avant la résurrection, avant Pâques, parce que ces instruments sont les seuls qui sont possibles dans cette période intermédiaire entre la mort de Jésus-Christ et sa résurrection. Et ces instruments font du bruit, quelque chose d'anti-musical, et viennent sanctionner, pour ainsi dire, le moment de désordre dans lequel se trouve le monde pendant cette période de l'année liturgique. Alors, au-delà, d'où le ténèbre, comme dans le son de ténèbres, hein, le ténèbre a le même sens théologique et religieux que dans ces pièces musicales qu'on appelle le son des ténèbres, ou le son de ténèbres. Plus largement, ces instruments bruyants, une petite liste, hein, tambour, rocher, sistre, claquoir, crécelle, toutes sortes d'objets de ce type, hein, faisant du bruit. Ces instruments sont ceux qui sont utilisés dans les civilisations européennes et ailleurs pour ce qu'on appelle le charivari. Le charivari, c'est ce bruit destiné à sanctionner un comportement qui est considéré comme immoral, quoi qu'il soit autorisé. Cas classique, on est en France, 1860, une veuve se remarie avec un jeune homme qui a 20 ans de moins qu'elle. Enfin, un jeune homme ou un homme, bon, ben, il y a 20 ans de moins qu'elle. Voilà, c'est autorisé par la loi, mais bon, dans les villages, on n'aime pas ça. Donc, ce remariage avec différence d'âge est sanctionné par un grand charivari pendant deux ou trois nuits, et puis ensuite ça s'arrête. Voilà. Alors, Lévi-Strauss a mis ça en relation avec des pratiques dans d'autres types de sociétés où les éclipses donnaient lieu à des charivaris avec le même type d'instrument, dans ces sociétés extrêmement différentes. Les éclipses de lune le génie mythologique de Lévi-Strauss lui fait rapprocher les deux types de choses en disant dans les deux cas, il y a une conjonction interdite. Voilà. Une vieille dame n'a pas à se marier avec un jeune homme et la lune n'a pas à cacher le soleil. La conjonction interdite va être à la fois sanctionnée et surmontée par le charivari. Bon, ces pages sont tout à fait admirables. Ce qui m'intéresse ici, c'est, encore une fois, les charivaris. Là encore, il ne faudrait pas gratter bien loin pour trouver dans notre civilisation des restes. Les concerts de klaxons au moment d'un mariage, alors le mariage c'est au contraire une conjonction autorisée, mais les concerts de klaxons ont certainement un rapport, hein, vous avez les fils de voitures qui klaxonnent, bon, il y a certainement un rapport, je ne sais pas très bien lequel, avec le charivari. Voilà, je vous dis tout ça un peu en vrac, mais c'est une manière de bien souligner que l'instrument de musique va plus loin que simplement donner des concerts dans des auditoriums ou des salles conçues à cet effet. J'en viens, puisque la thématique que j'ai choisie, c'est le rapport entre l'idée d'œuvre et l'idée d'instrument. Comment l'instrument est-il mis en œuvre? Quel type de travail fait-on avec un instrument? Alors, je voudrais évoquer, parmi bien d'autres, deux grandes conceptions de l'instrument, non pas de l'instrument de musique, hein, de l'instrumentalité ou de l'outil en général. Aristote d'un côté et Gilbert Simondon de l'autre. Aristote distinguait les outils ou instruments, ici la distinction de mots n'a pas d'importance, servant à l'action, praxis, et ceux servant à la production poiesis. La production poiesis, c'est quand on fabrique quelque chose qui est extérieur à l'agent, comme par exemple un potier ou un charpentier, et la praxis, c'est au contraire quand le travail concerne l'être même de l'agent, c'est par exemple l'action morale ou l'action politique. Bon, une transformation de soi par soi, si on veut. Et donc, Aristote distingue des instruments de production, et il prend l'exemple de la navette qui sert à tisser. Bon, c'est un instrument de production qui sert à fabriquer un objet indépendant, puisque ce sera du tissu. Bon, mais il prend comme exemple d'instrument d'action. Aristote prend comme exemple d'instrument d'action, praxis, j'allais dire le pullover, non, c'est anachronique, mais le vêtement. Bon, c'est un objet, c'est un outil, c'est un instrument, mais dont au fond la pratique consiste à se servir. Mais qui ne fait rien de différent de lui-même. La navette fabrique quelque chose de différent d'elle-même, un tissu. Le vêtement ne fabrique rien du tout, je m'en sers en le portant. Et c'est l'exemple d'un instrument d'action. Très intéressante cette distinction aristotélicienne. Mais où est-ce qu'on met l'instrument de musique? Un instrument de production, comme la navette, que fabrique un instrument de musique? Il fabrique du son qui s'éteint tout de suite. Il ne fabrique pas une substance qui dure. Il fabrique un ébranlement de l'air qui est immédiatement effacé. On ne peut pas dire que ça rentre dans la catégorie aristotélicienne d'un instrument de production. Alors, est-ce que c'est un instrument d'action, comme le vêtement que je porte? Difficile à dire, parce que je fais quand même des gestes. Le vêtement que je porte, bah, je le porte, c'est tout, je ne fais rien de spécial avec lui, il est sur moi. En revanche, l'instrument, il faut 10 000 heures, dit Richard Sennett, pour apprendre à jouer en professionnel d'un instrument de musique. Bon. Ça marche pas. Aristote, je crois pas que la dichotomie aristotélicienne, ou la distinction plutôt aristotélicienne, si intéressante qu'elle soit, permette de penser l'instrument de musique. Alors je saute pas mal de siècles et j'arrive à Gilbert Simondon, qui a écrit ce livre célèbre, difficile et toujours passionnant, qui s'appelle « Du mode d'existence des objets techniques », en 1958 je crois. Et alors, il propose une autre distinction que celle d'Aristote et qui est passionnante aussi. Il propose de distinguer l'outil et l'instrument. L'outil est un objet technique qui prolonge le corps, qui par des gestes va transformer le monde extérieur. Ça, c'est l'outil. Par exemple, une scie, un marteau, une bêche, pour vendre des objets techniques simples. Bon, l'instrument est un objet technique, toujours, qui prolonge le corps, toujours, mais pour obtenir une meilleure perception. Par exemple, une paire de lunettes. Bon, je ne transforme pas le monde, en revanche, j'améliore ma perception. Bref, outil transforme le monde, perception, instrument améliore la perception. Il fait d'ailleurs remarquer de manière très intéressante que certains outils peuvent aussi contribuer à améliorer la perception et peut servir d'instrument. Un cas très simple, c'est vous avez un marteau avec lequel vous enfoncez un clou dans un bois, dans du bois, et à un moment vous sentez que ça s'enfonce trop vite, que le bois va éclater. Et que vous êtes dans une zone de fragilité. Ou au contraire, à l'opposé, ça rentre très bien, puis d'un seul coup, vous êtes sur un nœud et il n'y a plus rien à faire. Bon. Auquel cas, l'outil, vous donnant une information sur la matière, fonctionne comme instrument. Mais il ne peut fonctionner comme instrument que s'il fonctionne déjà comme outil. Voilà. C'est tout à fait passionnant, les analyses de Simondon. C'est tout à fait passionnant, mais où va-t-on mettre l'instrument de musique dans cette distinction entre l'outil qui transforme le monde et l'instrument qui améliore la perception? Ni l'un ni l'autre. Si je joue du violon ou du piano ou de la flûte à bec, je ne transforme pas le monde. Mais est-ce que j'améliore ma perception? Pas du tout. Je produis des sons qui n'existent pas dans la nature, mais je n'améliore pas mon ouïe des bruits du monde. Ça ne marche pas. Voilà. Ce que je veux simplement dire, j'ai pris ces deux doctrines très éloignées dans le temps, je pourrais en prendre d'autres, c'est que en général, la thématisation philosophique, philosophique au sens large, de ce qui est outil et instrument, n'arrive pas à s'appliquer à l'instrument de musique. Qui déroge, de par son étrangeté fonctionnelle, aux catégories rationnelles, excellentes par ailleurs, permettant de classer, de différencier et de penser les objets techniques. Ça, c'était une première question, dans ce que j'appelais la mise en œuvre de l'instrument de musique. Quel type de travail fait-on avec l'instrument de musique? La réponse est je n'en sais rien. En tout cas, si j'en sais quelque chose, ce sera en allant chercher ailleurs que dans ces grandes pensées qui sont par ailleurs admirables. Deuxièmement, quel type de geste fait-on avec un instrument de musique? Alors là aussi, on a une originalité. Avec tous les autres outils ou instruments, je prends le mot outil-instrument dans un sens très très large, je fais des gestes avec l'instrument sur quelque chose d'extérieur. Avec un marteau, je fais des gestes avec le marteau pour enfoncer un clou. Mais je ne fais pas de gestes avec le violon ou avec le piano. Je fais des gestes sur le violon ou sur le piano. Et ça n'est pas du tout la même chose. Alors, il y a un chercheur qui s'appelle Claude Cadoz qui a écrit des textes tout à fait passionnants sur la notion de geste lié aux instruments. C'est une pensée assez difficile, je la résume vraiment en la simplifiant un peu, j'en ai conscience, mais quand même, si ça vous donne l'idée d'aller y voir, ce sera bien. Il distingue, alors on oublie une seconde les instruments de musique, il dit que d'une manière générale, nos gestes sur les objets techniques sont instrumentaux ou non instrumentaux. Il y a instrumentalité du geste, dit Claude Cadoz, quand il y a continuité énergétique entre les gestes du corps humain et l'objet technique sur lequel il s'applique. L'objet technique transformant l'énergie du corps humain en transformant soit la nature, soit la direction, soit l'intensité, soit un mélange de tout ça. Bon, exemple, la bicyclette. C'est un admirable objet technique. Vous pédalez et ça vous fait avancer linéairement. Et il y a continuité énergétique entre l'effort que fournit votre corps et l'avancée de la bicyclette. Maintenant, Claude Cadoz appelle non instrumental les situations gestuelles dans lesquelles nous agissons sur un objet technique, mais de telle manière qu'il y a discontinuité énergétique, qu'il n'y a pas cette continuité qu'on voit par exemple dans les bicyclettes. Exemple très simple, la voiture. La voiture, votre geste n'est pas instrumental, puisque la source de l'énergie n'est pas votre corps, mais un moteur alimenté par de l'essence, et enfin, l'énergie est entièrement indépendante de vous. Le geste n'est pas instrumental. Bon, donc il a une distinction que je trouve tout à fait intéressante de gestes instrumentaux et non instrumentaux. Où est l'instrument de musique ? Bah, tout dépend. L'instrument de musique, alors, Claude Cadoz est assez puriste en un sens, et au fond ça me plaît plutôt bien, il dit l'instrument de musique est uniquement du côté du geste instrumental. C'est-à-dire que quand vous prenez une flûte, un violon, un piano même, il y a continuité énergétique, quelle que soit la complexité du mécanisme. Une flûte à bec, il n'y a pas de mécanisme. Un piano, c'est un système de levier et de levier de levier. Bon, mais peu importe, il y a continuité entre votre geste, vos gestes plutôt, votre énergie physique, musculaire. Je ne sais pas comment on appelle l'énergie qui vient du souffle, enfin, le mot ne me vient pas, enfin bref, votre énergie corporelle, et puis l'énergie sonore qui sort et qui va frapper vos oreilles. En revanche, un synthétiseur, ça n'est plus instrumental le geste, parce qu'un synthétiseur ou tout objet de ce type-là, ça n'est pas, il y a discontinuité énergétique puisque vous déclenchez par vos doigts un mécanisme préformé que vous auriez pu déclencher tout à fait autrement avec un système lumineux, par exemple, qui aurait activé une cellule photoélectrique et qui aurait déclenché exactement les mêmes phénomènes. Voilà. Alors, il y a un petit inconvénient de cette théorie qui me plaît bien, c'est que l'orgue tombe un peu fâcheusement pour moi du côté du non-instrumental. Bon, aucune théorie n'est parfaite. Elle donne à réfléchir, hein. Elle ne résout pas tous les problèmes, mais je pense qu'elle permet de comprendre quelque chose, et j'en viens à ce point, sur les techniques du corps et le lien entre le corps et l'instrument. Et donc, vous voyez, je me concentre sur les instruments acoustiques, et maintenant, dans les instruments acoustiques, sur les instruments dont le geste est instrumental. Les autres sont très intéressants aussi, mais c'est là où se concentre, je crois, le noyau, le cœur, quantitativement, des 12 000 types d'instruments déjà recensés, et philosophiquement, c'est là où c'est le plus intéressant, je crois. Cette idée de Claude Cadoz sur la continuité énergétique dans le geste instrumental me paraît éclairer très bien le type de rapport que j'ai déjà évoqué un peu plus haut entre l'instrumentiste et son instrument. Le type d'échange assez complexe, assez compliqué. Alors j'ai une théorie qui vaut ce qu'elle vaut, que j'appelle la théorie des quatre corps. Je me suis un petit peu inspiré d'une célèbre distinction d'Ernst Kantorowicz sur les deux corps du roi. Hein, il y a le corps mortel du roi. C'est le roi qui est malade, c'est Louis XIV, il meurt. Bon, ben, voilà. Et puis il y a le corps immortel du roi, c'est la royauté. Le roi est mort, vive le roi. À l'instant même où le roi meurt, son successeur devient roi ipso facto, et donc le corps mortel du roi est mort, on l'enterre, et le corps immortel du roi, lui, ne meurt jamais. C'est le corps politique. Il me semble que pour l'instrument, on pourrait distinguer un corps physique et un corps musical. Le corps physique, c'est l'objet physique dont on peut tirer toutes sortes de sons, des sons musicaux, mais des sons pas musicaux. D'un violon, on peut tirer des sons musicaux, mais si vous vous tapez dessus à coups de marteau, vous en tirerez des sons tout à fait intéressants, peut-être, mais qui ne sont pas prévus. Bon, donc, voilà, le corps physique, c'est l'objet avec toutes ses propriétés physiques et tous les types de sons, musicaux ou non, qu'il peut rendre. Son corps musical, c'est la même chose. Sauf que c'est la même chose en tant que cet objet produit exclusivement des sons considérés comme musicaux par la société considérée. Évidemment, le partage entre le musical et le non-musical va changer au cours du temps, mais ça pose pas problème. Mais à un moment donné, le corps musical d'un violon, c'est le type de son qu'on admet dans la société musicale de l'époque comme étant voilà, musical. Instrumentiste, pardon, même chose. Il a un corps que je n'appellerais pas naturel, parce qu'il est chargé culture, bien sûr, mais il a un corps organique, donc à la fois naturel et culturel, et puis il a un corps musicien. Le corps organique, c'est le corps tel qu'il est formé par la culture à partir de la donnée naturelle. Le corps musicien, c'est le corps que l'instrumentiste s'est formé lui-même pendant ses fameuses 10 000 heures de travail, où il a appris des gestes, où il a appris des postures, où il a appris toute une gestuelle qui peut être fatigante, parfois douloureuse, avec des déformations professionnelles, etc. etc. Bon, c'est le corps musicien. Et C'est par le même processus d'apprentissage que le corps physique de l'instrument devient un corps musical et que le corps organique du musicien devient un corps musicien. Ça parie l'un à l'autre. Et ce qui m'intéresse beaucoup, mais je n'ai pas le temps de développer, c'est quand il y a une protestation du corps physique de l'instrument ou du corps organique de l'instrumentiste. Quand d'un seul coup, quand on joue en live, en concert, en s'entraînant, peu importe, une corde du violoncelle casse. Moi, je trouve ça beau quand ça arrive. J'ai une vieille expérience de concert de quatuor, côté salle. Hein. Je ne joue pas de ces instruments-là, malheureusement. Et ça m'est arrivé 3 ou 4 fois, hein, une corde casse. Ben, je trouve ça beau. Ça rappelle la matérialité de l'instrument. Ça rappelle que l'instrument résiste, est fragile, quoi qu'il soit solide, qu'il y a un rapport de force. Enfin voilà, la corde casse. Il faut 10 minutes, hein, mon expérience montre qu'il faut 10 minutes pour qu'elle soit changée, qu'il réaccorde et que le musicien revienne. Et puis ça, c'est la protestation de l'instrument. Et la protestation, si j'ose dire, du corps organique de l'instrumentiste, c'est quand il fait une fausse note. Et même les plus grands font des fausses notes. Alors, la vraie fausse note, le canard à la clarinette, vous voyez, la vraie fausse note. Je trouve que c'est beau aussi. Enfin, c'est laid musicalement, mais c'est beau humainement et anthropologiquement, une fausse note. C'est le rappel que, là aussi, il y a du matériel humain, vivant, enfin, matériel et maladroit, mais je veux dire, il y a quelque chose d'organique. Ça, c'est la mise en œuvre de l'instrument de musique. Alors, évidemment, cette mise en œuvre de l'instrument de musique, ce façonnement, il est à mon avis contraire à celui que fait le chanteur. Je dis ça très vite. L'instrumentiste, quand il apprend à dompter son instrument, c'est une métaphore fréquente, hein, dompter son instrument, il essaye de se l'approprier, Pierre Bayot, le violoniste virtuose dont je parlais tout à l'heure, a un jeu de mots intéressant. Il dit qu'avec son violon, il a changé son âme. Alors c'est un jeu de mots pour violoniste, parce que l'âme, c'est cette partie du violon qui est sous le chevalet et qui permet de transmettre c'est une pièce de bois, donc, hein, et qui permet de transmettre les vibrations des cordes à la table d'harmonie et à la totalité du violon. Et donc il dit, voilà, moi j'ai une âme sensible, mon violon a une âme en bois, mais on a échangé nos âmes, j'ai sensibilisé son âme. Il dit ça beaucoup mieux, mais je dis ça de mémoire. Mais je trouve cette métaphore très intéressante, cette manière de s'approprier à force d'un travail persévérant. Et Bayot était un immense virtuose, hein, des plus grands virtuoses du début du 19e siècle, cette manière de s'approprier l'instrument, de faire son instrument comme un prolongement de son propre corps. Alors que le chanteur, c'est l'inverse. Le chanteur, il essaye au contraire de traiter sa voix comme si elle était un instrument. Le chanteur essaye de distancier sa voix de son corps. Il cherche à l'objectiver d'une certaine manière. Il cherche à la travailler comme si elle n'était pas lui. Et je pense vraiment que les deux mouvements du chanteur avec sa voix et de l'instrumentiste avec son instrument sont de sens contraire. Je ne peux pas le démontrer naturellement, je vous laisse cette idée. Alors, j'arrive à une dernière partie, peut-être un peu plus philosophique ou un peu plus abstraite. C'est ce que j'appelle, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, l'ontologie de l'instrument de musique. Alors la question de l'ontologie de l'œuvre d'art est très à la mode depuis une quarantaine d'années, notamment dans la philosophie analytique, et l'ontologie de l'œuvre d'art, c'est en gros deux questions. L'identité de l'œuvre d'art. Qu'est-ce qui fait qu'une reproduction, y compris faite par un peintre, une reproduction picturale, pas photographique, d'une toile qu'il a faite lui-même n'est pas la même chose, ce genre de questions. Qu'est-ce qui fait l'identité d'une œuvre d'art? Et deuxièmement, quel est le mode d'existence d'une œuvre d'art? On voit bien qu'une symphonie n'existe pas sur le même mode d'existence qu'une statue. La statue peut être détruite, quand elle est détruite, elle n'est plus là. La symphonie, il suffit qu'il y en ait une partition dans un coin. Tant qu'on en a une partition, tous les autres peuvent disparaître, on peut recopier et reproduire. Je n'entre pas, il y a des livres entiers et des bibliothèques entières là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que l'instrument de musique, à mon avis, joue un rôle important dans l'ontologie de l'œuvre musicale. Alors Gerald Levinson, qui est un philosophe américain que je connais assez bien et qui travaille en philosophie de la musique, qui a écrit plusieurs livres intéressants, donne une petite place, à mon avis tout à fait, enfin pas suffisante, mais enfin il donne une petite place à l'instrument de musique dans sa réflexion. Et c'est bien le seul. La plupart des philosophes de la musique font de l'ontologie de l'œuvre musicale sans s'occuper le moins du monde des instruments de musique comme si la musique existait comme ça. Bon, évidemment, position avec laquelle je ne suis pas d'accord. Alors, je vais exposer une ontologie très simple, en partie parce que c'est le cas, en partie parce qu'il est moins 6. Je pense qu'il y a un rapport réciproque entre l'ontologie de l'œuvre musicale et l'ontologie de l'instrument. L'instrument existe d'une certaine manière quand il est joué. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer avec cette théorie des deux corps de l'instrument. Il a un mode d'existence et une identité différente quand il est joué. André Scheffner dit un instrument au repos et un instrument en train d'être joué, ça n'est pas la même chose. Physiquement, c'est la même chose. Juridiquement, si on veut, c'est la même chose. Mais essentiellement, ce n'est pas la même chose. Bon. Ce qu'il prouve d'ailleurs, c'est que quand on trouve des instruments de société avec laquelle la continuité culturelle est perdue, on ne sait pas comment en jouer. Et on ne sait pas quelles sont la société en tirer. On peut en tirer des sons, mais on ne sait pas. Quand la continuité culturelle est perdue, on ne sait pas de quelle manière il faut jouer des instruments, voilà, même comme l'holos grec. Hein. Bon. Enfin, il y a des polémiques là-dessus, je ne développe pas. Donc, l'instrument joué et l'instrument non joué, ça n'est pas la même chose. De même qu'une œuvre existant uniquement sur partition et la même œuvre étant effectivement jouée, bon, ça n'est pas la même chose. Et mon idée très simple, c'est que l'instrument a d'autant plus d'existence qu'il est en train de jouer, je dirais de jouer bien, je ne sais pas ce que veut dire jouer bien, ou plutôt je laisse ça de côté, mais en train de jouer bien une œuvre, et que de même, l'œuvre existe d'autant plus pleinement qu'elle est jouée bien. Je prends juste un exemple. Il y a d'odieuses sonneries de téléphone portable. Enfin, j'ai tort de dire ça, parce que c'est peut-être les sonneries de vos portables. Bon, où on entend des morceaux de musique dite classique. Palalam, 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 pam, et hop, bon, voilà, c'est la sonnerie du portable. Bon, c'est le début de la 40e symphonie de Mozart. Au fond, ça m'est arrivé d'entendre ça. C'est une petite sonnerie qui était un peu à la mode à une époque. Je l'entends plus, d'ailleurs. C'est un peu de la 40e symphonie de Mozart, hein, mais vraiment réduit allant vers le néant. Mais c'est un petit morceau quand même, hein. C'est un petit rapport. Bon, donc c'est une interprétation partielle, mauvaise, commerciale, tout ce qu'on veut, mais enfin, il y a un petit bout de 40e symphonie quand même. Vous voyez, bon, mais évidemment, si j'ai une interprétation en direct, en live, d'un bon orchestre inspiré, etc., etc., et je vous rends très bien, là, j'ai la symphonie de Mozart, j'allais presque dire elle-même, enfin, si on peut dire. Et il y a toutes sortes de gradations entre les deux, évidemment, hein, entre le petit reliquat du portable et puis là, voilà. Eh bien, si on admet ce que je viens de dire, qui est, je crois, enfin, c'est simple, ça veut dire que la richesse d'existence de la symphonie sera d'autant plus grande qu'elle sera effectivement jouée correctement par des instruments effectifs. Et les instruments seront d'autant plus, c'est un peu métaphysique ce que je dis, mais ils existeront d'autant plus intensément qu'ils seront effectivement joués et bien dans une œuvre. Voilà. Il y a une corrélation entre le mode d'existence de l'œuvre et le mode d'existence de la de l'instrument de musique. Je conclue. Je vous avais proposé la définition de Boucouret-Chlieff, la musique, c'est le système de différence, qui structure le temps sous la catégorie du sonore. Il me semble que l'instrument de musique est exactement cet objet technique et musical qui permet de structurer le temps sous la catégorie du sonore, puisque l'instrument de musique produit du sonore et il produit du temps et il produit l'articulation entre les deux. Et voilà pourquoi l'instrument de musique est pour moi au cœur de la musique. Merci.